abrupte pour ceux qui viendraient pour la première fois dans ce catéchisme de tout de suite commencer par le péché, mais je ne peux pas tout refaire à chaque fois. Disons que Dieu nous aime, Dieu est notre créateur, celui qui donne la vie, et donc il nous a créé avec une nature particulière, il nous demande de suivre la loi de notre nature, non pas qu'il triche avec notre liberté et notre esprit, notre intelligence et notre volonté, mais au contraire, notre nature est véritablement adéquate et tout à fait proportionnée à notre caractère spirituel. Donc, il ne faut pas penser que Dieu, lorsqu'il crée, se trompe ou qu'il fait une nature trop difficile à vivre. Et donc, le péché, qui consiste à se détourner de la volonté de Dieu et de la relation avec celui qui nous a créé, qui nous a donné la vie, est véritablement, lorsque c'est un péché, un obstacle, une volonté de s'opposer à Dieu. De s'opposer à sa volonté, mais s'opposer à sa personne. Le péché a trois conditions. L'objet du péché, la matière du péché, c'est-à-dire par exemple insulter quelqu'un. La pleine conscience. Alors il y a des degrés d'insulte. Hein, si vous dites à quelqu'un vous êtes un idiot, hein, ou alors vous lui dites vous êtes un démon, ouais, c'est pas la même chose. Ou si vous dites à quelqu'un vous êtes un voleur. Ouais. Et si ce qualificatif est disproportionné, c'est une insulte. Au sens propre. Quand un professeur de médecine dit d'un cas particulier que il est crétin, au sens technique et médical du terme, il ne l'insulte pas. C'est du crétinisme. C'est-à-dire, il y a des... Mais de nos jours, comme c'est une insulte, on n'utilise pas de manière médicale. La matière de l'acte, c'est son objet, ce que l'on fait. Par exemple, vous courez pour rattraper le bus, ou vous courez pour pousser quelqu'un et le faire tomber. Donc là, en soi, vous courez, vous vous donnez de la vitesse. Le but, c'est de rattraper le bus. Ou c'est d'avoir suffisamment d'énergie, de puissance et de poids pour qu'une personne soit projetée au sol et se fasse mal. Oui. Donc la matière c'est l'acte que nous posons. Et il doit y avoir une intention. Et cette intention, elle doit être en pleine conscience, ce qu'on appelle la pleine advertance. On se rend compte de ce qu'on fait. Vous voyez? Si vous marchez d'une manière mécanique parce que vous êtes somnambule et que vous bousculez quelqu'un pendant que vous marchez, eh bien vous n'êtes absolument pas conscient de ce que vous faites. Vous voyez? Ou alors quelqu'un vous marche sur le pied et vous avez un geste de douleur. Qui donne un coup avec votre main à une personne qui est à côté, par exemple. Il n'y a aucune volonté de lui donner ce coup. Ce sont des actes réflexes. Donc les actes humains doivent être conscients. On doit être en pleine advertance. Hein, ça donne quelqu'un qui est averti, il sait ce qu'il fait. Et aussi, il faut le plein consentement à cet acte. C'est-à-dire que On veut cet acte et on en veut toutes les conséquences et on est conscient de toutes les conséquences. On les connaît et on les veut. Vous poussez quelqu'un alors que le métro arrive et vous le poussez sur les rails. Donc vous voulez tuer cette personne. Ou alors vous voulez pousser cette personne pour lui faire peur et vous avez regardé si le métro arrivait. Vous dites, bon, puisqu'il n'arrive pas, ça va lui faire très peur. Et puis elle va risquer de s'électrocuter. Vous voyez ? Mais vous ne voulez pas. En fait, le métro arrive plus vite que vous ne pensez et la tue. De manière certaine. Vous voyez ? Donc le plein consentement, en droit pénal, vous voyez, dans le jugement des hommes sur les autres hommes, on va décortiquer la pleine volonté. Et la connaissance de toutes les conséquences. Vous voulez faire peur à quelqu'un, vous voulez rendre quelqu'un malade et en fait vous dosez trop le produit pour le rendre malade et il meurt. Et vous l'empoisonnez en fait. Et vous vouliez le rendre malade seulement, mais vous mettez une dose qu'on dit létale, qui est mortelle. Donc l'être humain avec son âme, eh bien, il a une puissance absolument exceptionnelle. Et par rapport à l'animal qui vit dans l'instinct et qui ne mérite pas les actes qu'il pose, vous voyez, quand un lion, en temps de famine, se dirige vers les lionceaux pour les manger, c'est pas qu'il soit méchant, il a faim et c'est de la viande facile à trouver. Et s'il voulait manger un autre lion, ça serait plus difficile. Et les lionnes, elles, par contre, en général, ne mangent pas. Même si elles sont affamées, elles ne mangent pas leurs petits, grâce à Dieu. D'autres espèces mangent leurs petits. Hein. Je crois même les chats mangent leurs petits. Mais les chattes mangent leurs petits. Non ? Les chats eux-mêmes ? Pas les chattes ?
Les chattes les protègent.
Les protègent quand même comme les lionnes. Mais il y a certaines espèces où même la mère mange. Hein. Bon, c'est peut-être l'araignée aussi. Hein, qui est pas très très développée dans le genre. Et donc, tout cela, c'est pour vous donner une idée du péché avant de continuer. Le péché, c'est une matière, c'est un acte, avec un plein consentement et une pleine connaissance de la chose. On comprend par l'intelligence, on le veut par la volonté. C'est ça le péché. Et Dieu nous a créés pour faire le bien. Et donc faire le bien. Le péché, c'est une chute, c'est une incongruité dans la vie. Il y a des personnes qui réussissent à ne jamais pécher. Vous avez des... On estime que Saint Louis de Gonzague ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'ont jamais péché gravement. Ça, c'est certain. Ensuite, ils ont pu faire des péchés légers, des caprices d'enfant, par exemple. Mais à partir d'un certain âge, un caprice qui rend malheureux tout le monde ou qui est fait exprès, il faut faire attention. Vous voyez, je sais pas, un enfant de 12 ans qui fait un caprice et qui rend malheureux toute la famille, qui arrête un repas, un voyage, tout ça, enfin, ça commence à devenir plus grave que ce que fait un enfant de 4 ans parce qu'il a une part plus petite que l'autre. De gâteau à un anniversaire. Mais, donc, la nature humaine, elle est placée dans l'existence pour faire le bien. Et le plus grand bien pour un esprit, c'est de trouver la vérité sur son être, sur son origine et sur le but de son existence et de sa fin. Et en fait, ce n'est pas au choix. Nous sommes responsables de notre adhésion à la vérité et à notre salut. C'est obligatoire. Notre nature est faite pour choisir le bien et choisir le salut. Oui. Et donc Dieu va nous y aider par sa grâce, par son aide, parce qu'il nous prépare un bien qui est supérieur au bien moral terrestre de la paix ordinaire. Des bonnes actions autour de nous, dans notre famille, avec nos voisins, dans notre travail, dans notre retraite, dans... Il y a une récompense qui dépasse la vie naturelle et qui est un cadeau de Dieu. Et Dieu nous met à l'épreuve du bien pour nous donner d'une manière gratuite, pour couronner notre coopération à une aide surnaturelle pour faire un plus grand bien encore, qui est d'arriver à voir Dieu, à entrer dans la vie de Dieu. Alors il y a une querelle justement de savoir si c'est vraiment un dû ou si c'est gratuit. Et de manière dogmatique, l'Église, la religion dit c'est gratuit. Dieu n'est pas obligé de nous donner le bonheur éternel. Mais il nous a créés pour cela. Donc, en fait, c'est une question qui m'a toujours semblé un peu oiseuse, parce que de toute façon, Dieu nous a créés avec la grâce qu'il veut nous donner pour le salut éternel. Il n'y a pas, c'est une pure hypothèse théologique, c'est une pure hypothèse, une pure idée de dire Dieu aurait pu nous créer sans qu'il y ait à un moment de notre vie un choix qui mérite, avec l'imprégnation et la puissance de la grâce, le salut éternel et de vivre en Dieu, d'entrer dans l'intimité de Dieu. Actuellement, vous avez survécu à vos premières années, vous n'êtes pas mort à 3 mois, vous n'êtes pas mort à 6 mois, vous n'êtes pas mort à 2 ans, vous avez vécu, et jusqu'à présent vous n'avez pas vu Dieu face à face. Et bon, vous en portez pas plus mal non plus, enfin vous avez un bonheur naturel. Vous voyez ? Donc, certains prennent une hypothèse en disant, Dieu aurait pu nous donner un bonheur naturel perpétuel. Oui, on serait tranquille, heureux, mais voilà. Sauf que Dieu a prévu de nous rendre encore plus heureux que le bonheur naturel terrestre. Ça, c'est important. C'est important parce que ça veut dire que nos actes ne sont plus seulement, n'ont pas seulement comme but d'être toujours bons et vertueux, mais qu'en plus, ils sont liés à une récompense surnaturelle qui va dépasser les mérites naturels de nos actes. Alors on va se dire, mais c'est un peu compliqué, pourquoi le bon Dieu nous fait passer un tel examen pendant tant d'années ? En plus, pour certains, il interrompt le temps rapidement. Hein. Ah, il est 21 ans ! Ah oui, mais j'ai pas fini ma copie. Ah, ben c'est. Ah, ben non. Ah, on reprend la copie et on est jugé. Ah, mais j'avais pas terminé. Je pensais vivre jusqu'à 85 ans. C'était marqué dans le journal. Ah, ben voilà. Enfin, ils ont menti. Et puis vous avez quand même observé qu'il y a des gens qui mouraient plus tôt. Vous voyez ? Mais comme on est dans un monde anti-religieux, hein, eh bien, on vous hypnotise, on vous dit ah ben voilà, mais c'est un dû de vivre vieux, et puis ça sera même un dû de vivre en bonne santé perpétuellement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience qui a été faite par le docteur Maboul. Le corps était vraiment cuit de chez cuit, donc il allait faire une greffe de tête. Et donc il allait très rapidement, hein, parce que il y a un petit problème au point de vue des artères, ça c'est très 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 irrigué, hein, le cerveau, hein, c'est le temps que vous déplaciez la tête, vous avez intérêt à mettre quand même du sang, tout ça, c'est compliqué. Puis il y a beaucoup beaucoup de nerfs, et puis des nerfs très compliqués, il y a tous les nerfs en fait. vous coupez tous les nerfs, tout ça, enfin délicatement, rapidement. Et puis vous mettez sur un autre corps qui lui est en bonne santé. Mais la personne, elle est cuite, mais de la tête. Elle est dans un coma dépassé, on ne sait pas trop. Enfin, elle a, je sais pas, un traumatisme crânien. Mais le corps va bien, le reste va bien. Donc on retire la tête du bonhomme et puis on lui met une tête, elle qui va bien, dans un corps qui va bien, et donc ça fait quelqu'un en bonne santé. Et le transhumanisme dont certains ont peur. Vous voyez. Alors moi, mon opinion dans le transhumanisme, c'est que ça va nous permettre, ça nous permet de réfléchir, de contester, de protester, de penser qu'il y a un complot extraordinaire en matière de transhumanisme. Je vous ferai remarquer que le jour où on pourra connecter un ordinateur ou une clé USB à un cerveau, c'est que l'influx électrique du cerveau aura été décodé au point qu'il puisse être mis sur une clé USB et transcrit dans un programme informatique. Alors, pourquoi pas ? Donc, ça veut dire qu'on aura des machines absolument extraordinaires, des ordinateurs absolument extraordinaires qui pourront, si vous voulez, totalement séquencer le flux du nerf optique. Le flux de la mémoire qui va de neurone en neurone pour ensuite être abstrait par l'âme. Alors connecter un ordinateur à l'âme, alors là j'attends de voir avec gourmandise, avec impatience. Hein? Alors on vous fait miroiter, heureusement qu'il y a des films, hein, parce que sinon vous auriez un documentaire sur là-dessus, vous avez le bonhomme, il est là, on met des capteurs, ou alors on le trépane et puis on met des électrodes dans le cerveau, on essaye de dire. Alors ça fait 0-1, 0-1, 0-1, c'est comment ça se passe? Et puis quand on connecte à l'âme, alors imaginez l'électrode en l'air, ou entre le cerveau, ou dans un espace du cerveau où on pense que l'âme se connecte au cerveau. Le problème, c'est que l'âme, elle est immatérielle, hein, donc elle se promène même pas, l'âme. Vous voyez, parce que pour se promener, il faut d'abord avoir des jambes. Et donc voilà. Donc le transhumanisme qui vous fait peur, enfin moi, en tant que philosophe thomiste et théologien thomiste, moi ça me fait rire. Mais attention, hein, peut-être qu'un jour, quand je me serai face à un robot humanoïde, machin, je rigolerai peut-être moins. Hein. Et à mon avis, ça sera surtout un robot. Et les robots qui sont en train de vous faire, où ils vous disent que ils programment des langages, où le robot pourra créer son langage, alors là c'est très dangereux parce que le robot peut partir en vrille. Mais le robot n'utilisera que la matière qu'il a. Donc ça sera par rapport à des erreurs du programmateur qui fera n'importe quoi, qui vous tuera, qui vous fera un truc, mais il a aucune malice, jamais, et ça sera Terminator, hein. Le film Terminator, on voit que le robot a presque une volonté de tuer, qui parcourt dans l'ordinateur. Tout ça, c'est du bidon, hein.
Au niveau d'une opération, par exemple, ils sont capables d'enregistrer toutes les séquences d'une opération et que le robot dit s'il voit le médecin.
Ah oui, mais c'est purement mécanique.
Oui, oui.
Et on doit programmer profondément l'ordinateur. Ce geste, c'est ça. Ce geste, c'est ça. Il y a des algorithmes et machin, tout ça. On ne vous dit pas le nombre d'heures, le nombre de semaines, de mois qu'il faut pour qu'un ordinateur imite l'homme. Mais s'il y a un truc qu'on n'a pas mis dans le programme, il le fera pas, il l'inventera pas. Et si vous mettez des séquences avec oui, non, suivant tel choix et tout ça, et si à un moment il se plante, c'est parce que vous aurez mis des choix, vous n'aurez pas donné la réponse à un moment donné. Et lui, si vous avez mis une ligne qui lui permet de prendre au hasard une autre réponse, il la prendra au hasard, il la prendra d'une manière électrique, voilà, et oh mince, il a coupé l'artère, le robot chirurgien. Il bug, il fait, et là il vous fait un carpaccio, voilà. Et vous... Oh, extraordinaire, mais alors avec une précision extraordinaire. Oui.
Mais on crée des... Enfin, il y a des intelligences qui sont créées.
Oui.
Maintenant, qui créent elles-mêmes leurs propres programmes.
Oui, mais ça sera des programmes. Ça ne sera pas une intelligence. L'intelligence, ça est l'abstraction du réel. Un ordinateur, ça sera toujours par rapport à ce, au programme qu'on lui a donné. Et le programme qu'il va élaborer, c'est par rapport... C'est, si vous voulez, vous lui donnez des Legos. Mm-hmm. Vous assemblez certains Legos. Et puis vous lui donnez la possibilité d'assembler d'autres Legos. Mais ce sera toujours des Legos qu'il fera. À un moment donné, il va pas faire un tissu vivant. Il fera du Lego. Oui.
Et qu'est-ce que vous pensez de la théorie qui dit qu'un jour, on pourra tellement infiltrer le cerveau avec les ordinateurs qu'on pourra supprimer totalement même l'aspect spirituel de l'humain?
Ah, mais ça, c'est pour vendre les bouquins.
Ouais.
Et pour visiter des sites. Possible. Parce qu'à chaque fois que vous visitez des sites, ouais, s'il y a une pub, ding, ouais. Et c'est de la science-fiction.
Vous pensez que c'est pas possible?
Je ne pense que c'est pas possible à cause de l'âme. On ne peut pas connecter l'âme. Mais on essaiera, hein. On essaiera. Et peut-être que des démons s'amuseront à provoquer certaines réponses, mais qui ne viendront pas de l'ordinateur ou du cyborg, mais qui viendront d'un démon. Non, ça on ne le saura pas. Par contre, le bon Dieu, à un moment donné, il va arrêter tout ça.
Oui, oui.
S'il y a des cas de torture, on peut justement effacer une partie de séquences de mémoire.
Ah, mais on ne les efface pas, on détruit. On détruit le support matériel de l'âme pour s'exprimer. Vous voyez? Par exemple, on coupe la langue à quelqu'un. C'est parce qu'il ne peut, peut plus parler. Enfin, il veut pas parler, c'est qu'il peut pas parler. Et vous n'atteignez pas l'âme quand vous coupez la langue à quelqu'un. Et bien, quand vous détruisez des parties du cerveau, la mémoire est toujours dans l'âme, mais elle peut plus s'exprimer. Parce que la mémoire n'est pas dans les neurones. Hein. La mémoire, elle est dans l'âme. Et c'est la raison pour laquelle, au risque de vous choquer, mais vous êtes grand, les plantes et les animaux ont une âme. Mais on considère en philosophie que ce principe de mouvement immatériel par rapport à la matière inerte est anéanti à la déstructuration de la matière. Quand vous écrasez un tournesol à un coup de bêche et vous mettez en mille morceaux, eh ben il n'y a plus d'âme de tournesol. Mais l'âme du tournesol ne part pas au paradis. Elle est anéantie. Le principe du mouvement de cette plante, alors je vous aurais pris un brin d'herbe, c'était un exemple moins fort. Un tournesol, c'est très impressionnant, un tournesol. Il a des capteurs par rapport à la lumière. Il suit le soleil. Et puis quand il en a assez, bloup, il s'éteint. Vous voyez, Et le lendemain matin, il se redresse et il suit le soleil. Eh bien, figurez-vous que il y a une âme dans le tournesol, une âme végétale. Il y a du vivant. C'est tout, hein. C'est impressionnant, les cellules vivantes. Oui. Eh bien, chez l'animal, non seulement il a des cellules vivantes en lui, des bactéries qui se promènent dans son estomac, qui sont tout à fait autonomes, mais lui-même a une âme. J'ai vu récemment quelque chose d'absolument impressionnant. Vous avez une dame qui s'est occupée de lionceaux, de femelles, de deux lionnes, pendant longtemps. Mais au bout d'un certain temps, elles étaient devenues tellement grandes qu'on lui a dit, mais c'est pas raisonnable, vous pouvez pas garder chez vous. Voilà. On les a mis dans un zoo de plaine. Hein. Sans doute en Afrique, je pense. Enfin bon, un zoo où ils ont un espace monstrueux. Et un jour, elle est revenue les voir. Elle s'est présentée à la barrière. Vous avez les deux lionnes qui ont rappliqué, mais à toute vitesse. Et se mettant sur les pattes arrière, lui ont fait des mamours, des papouilles, mais complètement folles. Mais dingue, mais c'était fou de voir ça. avec pâte de velours. Mais il faut voir, la pâte, ça faisait la moitié de la tête de la personne, hein, la pâte. Et donc, quand elle mettait les deux pattes sur elle, on voyait plus la tête. Et c'était comme ça en permanence, et des embrassades avec dents de velours. Et de la lécher, et de machin, et elle était là, et je pense qu'elle avait confiance, elle connaissait les félins, un coup idiot, et vous avez le croc qui rentre ici, et en 30 secondes, c'est fini, elle est vidée. Donc, c'est des grosses artères, c'est pas bon. Mais ce qui est, c'était extraordinaire.
C'est pas plutôt un réflexe?
Ah, mais c'est une mémoire. C'est une redoutable mémoire. Si, il a une âme. Il a une âme, mais il n'a pas l'abstraction. Il n'a pas l'abstraction, c'est-à-dire qu'il ne... Si vous voulez, c'est diffus dans son être. Il n'a pas une conscience de l'être individuel qui est là. Sa mémoire et son affection sont à vif. C'est comme un enfant avant qu'il soit totalement conscient de ce que c'est son papa, que c'est sa maman. C'est primaire, oui, c'est ce qu'on appelle l'estimative chez les animaux. Mais c'est peut-être primaire, mais qu'est-ce que c'est fin quand même.
Mais précisément, quand on voit des exemples des fois de dévouement, d'attachement, on a vu des animaux qui se sacrifiaient pour.
Tout à fait.
On peut pas imaginer que leur âme disparaisse. Bah, l'Église n'a pas tranché.
Non.
Elle n'a pas tranché.
Elle a tranché de manière générale. C'est-à-dire que il y a des animaux qui sont tellement méchants qu'il n'y a aucune personne qui dit ce chat agressif, ce chien agressif, il est allé au ciel, quoi. Il a été jugé sur sa méchanceté ou pas.
On peut imaginer qu'on les retrouvera plus tard.
Certains animaux, peut-être qu'on demandera à Dieu de ressusciter des animaux qu'on a connus et leur donner l'immortalité. Ça, alors là, Dieu peut faire, hein, y a pas de problème.
Les animaux au paradis?
Ça, jusqu'à présent, on n'en a pas vu. Dans les visions mystiques, il y a des formes animales, mais c'est pas des animaux au sens propre. D'abord, pour l'instant, il n'y a pas de paradis, à part Notre Seigneur et la Vierge Marie, et ceux qui sont apparus à Pâques ressuscités. Actuellement, dans la vie éternelle, il n'y a pas beaucoup de vie matérielle. Il n'y a pas de. La vie éternelle n'est pas sur une autre planète avec de l'herbe, de l'eau. Actuellement, le Jésus, on ne sait pas où il est, mais il est quelque part. Marie, on ne sait pas où elle est, mais elle est quelque part.
Je parlais du paradis terrestre.
Ah, le paradis terrestre, il n'existe plus pour l'instant.
Il y avait des animaux.
Ah mais c'était le paradis terrestre, c'était la vie terrestre. On appelle ça paradis parce que c'était le bonheur. Et d'ailleurs, quand on voit les crocs des lions et que certains disent que si Adam n'avait pas péché, tout le monde aurait été herbivore, là on se demande pourquoi le bon Dieu a créé des êtres avec des dents pareilles pour manger de l'herbe. Vous voyez ? Non, c'est plutôt pour déchirer les chairs, et les lions auraient mangé tranquillement d'autres animaux. Si vous voulez, à quoi ressemblera la vie éternelle avec une terre, une nouvelle ornementation de la terre? À la fin du monde, à cause des péchés de l'homme, Dieu tuera tout le monde. Tous ceux qui seront vivants au moment du triomphe de l'Antéchrist et du mal et d'une la dictature la plus terrible qui n'aura jamais existé, imaginez, vous pourrez ni acheter ni vendre, il n'y aura plus de monnaie, il y aura que des... tout le monde, même les pauvres, auront une puce, pas forcément sous la peau d'ailleurs, on aimera... Mais ils auront une carte bleue, qu'on rechargera, que l'État de la République de l'amour... va recharger tous les mois. Le revenu universel, c'est ça, hein. C'est déjà ça, hein. C'est-à-dire que vous aurez vos billets de Monopoly tous les mois pour aller consommer. Mais il n'y aura plus, si vous voulez, ça sera un contrôle extraordinaire puisque tout le monde sera fiché informatiquement et tout le monde aura son argent informatique bitcoins avant le bitcoin, mais tout le monde, on saura à tout moment qu'est-ce que vous dépensez, qu'est-ce que vous dépensez pas, où vous êtes. Ça sera merveilleux, ça sera une providence étatique comme jamais. Ça sera le bonheur absolu. Personne ne pourra être soigné sans qu'on connaisse tout son passé médical. Ça sera merveilleux. On sera tous heureux.
Pour les assurances,
ça sera merveilleux. Mais on sera tous avec une carte qui nous reliera à l'ordinateur central.
Ça existait déjà, ça.
Oui, actuellement, toutes les voitures sont reliées à l'ordinateur central. Ben oui. Toutes les plaques minéralogiques actuellement sont toutes entrées dans l'ordinateur central de la police, de la préfecture et maintenant des sociétés privées. Le fichier a été donné aux sociétés privées. Toutes les voitures, elles sont toutes liées à votre adresse. C'est très rare que vous ayez une voiture dont la plaque minéralogique ne soit pas liée à votre adresse. Tout est informatisé. D'où le pouvoir extraordinaire des PV actuellement. C'est extraordinaire. Alors, tout cela pour vous dire que cette société sera merveilleuse, il n'y aura plus de maladies, on avortera tous les malades avec des diagnostics pré-implantatoires, pour tous ceux qui voudront pas, les femmes qui voudront pas avoir de grossesse, d'autres les porteront. Je pense pas qu'on arrivera à faire des grossesses avec des ventres d'animaux à cause des nombreux échanges physiologique qu'il y a entre l'enfant et la mère. Très nombreux. Donc, à mon avis, c'est pas possible. On verra bien. Et là, voyez-vous, ça sera une société du plaisir, une société parfaitement organisée, et là, ça sera une dictature épouvantable. Et comme dans les films d'anticipation, on vous donnera tant d'enfants, vous aurez le droit à avoir un enfant ou pas, vous aurez ceci, cela, mais ça sera demain, et là notre Seigneur reviendra en gloire. Et quand on verra la croix dans le ciel, ça par contre c'est dans l'Évangile, le Seigneur apparaître, le temps de bien comprendre que c'est fini, et là après le feu, et un feu qui fera mourir tout le monde. Et ceux qui seront vivants à ce moment-là et qui seront pas méchants, qui seront saints, mourront à ce moment-là. Ils seront transformés, comme dit saint Paul. Alors certains disent, oui, mais alors ceux qui ne sont pas malicieux au moment de la fin des temps mourront pas. Ils passeront de la vie naturelle à la vie surnaturelle d'un coup. Oui, mais il faut bien que leur corps soit transformé. Parce que ceux qui auront 70 ans au moment du retour du Christ, imaginez que leur âme voit Dieu et qu'ils gardent un corps de 70 ans. Oui, ça va, hein. S'ils ont si leur corps est pas en bonne santé, non. À la résurrection des morts, tous ceux qui ont eu un corps décomposé, réduit en poussière, dispersé, retrouvent un corps. Et tous ceux qui sont vivants à ce moment-là, ils vont pas garder leur corps tel qu'il est. Moi, je veux pas être chauve pour la vie éternelle. Si notre Seigneur revient dans 2 ans, j'espère qu'il me refera les cheveux, enfin je sais pas. Il me retendra un peu la peau qui commence à se strier gentiment. C'est un peu bébé, mais quand même. Vous voyez, mais tout ça pour vous dire qu'à la fin des temps, il y aura un feu, une punition divine, redoutable. Tout le monde mourra et tout le monde ressuscitera. Et la surface de la terre sera réornée. Alors, est-ce qu'il y aura des fleurs? Est-ce qu'il y aura des animaux? Vu que les hommes ne se reproduiront plus, il n'y aura pas de nouveaux enfants. Est-ce qu'il y aura des animaux qui se reproduisent? Est-ce que le lion va toujours manger des gazelles s'il y a à nouveau des lions? Probablement pas. En tout cas, dans la première création, n'oublions pas que ceux qui disent que les lions auraient été herbivores si on avait été dans la sainteté, dans la vertu, vu leur mâchoire, non, c'est pas crédible. Vous voyez? Ou que les requins aient mangé du plancton. Vous voyez? Avec les dents qu'ils ont, c'est vraiment pas utile, hein, pour manger du plancton avec ce qu'ils ont. En plus des dents qui n'arrêtent pas de pousser, qui à chaque fois qu'ils qui se casse les dents sur un os, il y a une dent qui pousse derrière, enfin c'est des machines à tuer extraordinaires. Mais c'est aussi, ça permet de libérer, ils mangent aussi des cadavres, enfin ce sont des aspirateurs des mers aussi. Hein.